Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Dans la vie, il y a quatre jeunesses. La première est un livre d'enfants qu'une mère a bordé de tendresse et qui s'ouvre au soleil levant. La deuxième est le temps de la chance, c'est le temps des premiers amours. En marchant de vacances en vacances, on oublie de compter les jours. La troisième est un arbre qui donne tous les fruits de la chair et du sang, un été qui fleurit en automne et finit dans un cheveu blanc. La dernière est un ange qui passe et voyage sur nos souvenirs. On remet chaque chose à sa place, puis un jour, on s'en va, non pas mourir, mais renaître à la vie. Dans la vie, on a quatre jeunesses. Et pourtant, si l'on sait bien compter, l'important, ce n'est pas la jeunesse, car tout passe dans cette vie étrange. Il n'y a qu'une chose qui ne passe pas, c'est d'avoir fait de chacun de nos jours un hymne d'amour, un hymne de joie, pour celui qui nous a tant aimés. L'important, c'est d'avoir su écouter la parole vivante qui nous fait vivre, un arc-en-ciel entre Jésus et les hommes. C'est de croire à la promesse d'aller un jour le rejoindre dans l'éternité. Merci Seigneur pour ton amour. Ô précieux sacrifié, je te donne mon cœur, je te donne ma vie.
Voilà, vous pouvez le garder chez vous, ce petit poème. J'aimerais ouvrir le livre de Samuel, deuxième livre de Samuel, au chapitre 19 et au verset 31. Nous allons lire cette belle histoire qui nous parle, qui parle à chacun d'entre nous. De Samuel, chapitre 19, verset 31. Barzillaï, le Galadite, descendit de Roguelin et passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner jusqu'au-delà du Jourdain. Barzillaï était très vieux, âgé de 80 ans. Il avait entendu le roi pendant son séjour. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïm, car c'était un homme fort riche. Le roi dit à Barzillaï, « Viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. » Mais Barzillaï répondit au roi, « Combien d'années vivrai-je encore pour que je monte avec le roi à Jérusalem ? Je suis aujourd'hui âgé de 80 ans. Puis-je connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais ? Ton serviteur peut-il savourer ce qu'il mange et ce qu'il boit ? Puis-je encore entendre la voix des chanteurs et des chanteuses ? Et pourquoi ton serviteur serait-il encore à charge à mon seigneur le roi ? Ton serviteur ira un peu au-delà du Jourdain avec le roi. Pourquoi d'ailleurs le roi m'accorderait-il ce bienfait ? Que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville, près du sépulcre de mon père et de ma mère. Mais voici ton serviteur, mon serviteur, ton serviteur Kiam, qui passera avec le roi, mon seigneur. Fais pour lui ce que tu trouveras bon. Le roi dit, que Kiam passe avec moi, et je ferai pour lui ce qui te plaira. Tout ce que tu désireras de moi, je te l'accorderai. Quand tout le peuple eut passé le Jourdain, et que le roi l'eut aussi passé, le roi baisa Barzillaï et le bénit, et Barzillaï retourna dans sa demeure. Le roi se dirigea vers Gilgal, et Kiam l'accompagna. Que Dieu nous bénisse ce matin à travers cette lecture où je ne doute pas que vous l'avez déjà bien lue, peut-être et relue, parce que c'est toujours une histoire extraordinaire que les histoires de David, parce que le roi dont il est question, eh bien il s'agit de David. Nous avons là ce matin dans ce texte deux grandes figures de l'âge. D'abord David et son ami Barzillaï. Il est touchant de se souvenir de la vie de David parce que la Bible nous le présente déjà comme un tout jeune homme, au départ de son existence, un homme choisi, un homme mis de côté. Et puis, intervient à la fin de son âge, dans sa vieillesse, un homme dont il ne nous est pas tellement parlé auparavant, que nous connaissons sous ce nom, qui nous est décliné sous ce nom de Barzilaï. Maintenant, peut-être pour se souvenir un petit peu du contexte et de la situation, eh bien, il serait bon peut-être de remonter un peu l'histoire. Et ce que nous avons lu, cette histoire nous transporte au moment, vous allez vous en souvenir, de l'affaire Absalom. Vous connaissez Absalom, le fils du roi David. David a eu plusieurs fils, mais il en a eu un qui lui a donné, comme l'on dit, du fil à retordre. Parce que nous savons que c'était une période extrêmement difficile pour cet homme de Dieu, pour ce père, eh bien, de connaître les facéties et toutes les turpitudes de son fils Absalom. Ce fils est parvenu dans la vieillesse de son père à soulever la nation contre, eh bien, le roi David. David, à ce moment-là, était certainement déjà âgé. Et chose étonnante pour un homme comme David, dans le pouvoir qui était le sien, eh bien, de devoir fuir la révolte fomentée par Absalom. On pourrait dire que c'est un renversement de situation, vous rendez compte. Imaginez-vous que, eh bien là, c'est un fils qui chasse son père. C'est vraiment, eh bien là, une chose inimaginable. Et pourtant, en fait, d'imagination, eh bien, les choses d'hier sont aussi les choses d'aujourd'hui, hélas. On voit bien dans la parabole du fils prodigue, parabole de Jésus dans l'évangile, eh bien, de Luc, combien aussi un fils abandonne son père pour partir un petit peu à l'aventure, pas un petit peu, mais beaucoup à l'aventure, dilapider son bien et faire souffrir terriblement. Eh bien là, ce père, et surtout dans l'âge, surtout lorsque les forces diminuent, lorsque finalement nos énergies sont plus les mêmes. On le sait, et vous le savez certainement encore mieux que moi, mais quand on arrive à un certain âge, eh bien, les choses sont beaucoup plus pénibles que lorsque l'on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que nous sommes encore en énergie à ce moment-là. Et nous pouvons encore avoir des capacités de prendre des décisions. Mais quand, finalement, eh bien, là, les événements nous dépassent et que nous ne pouvons plus faire face, eh bien, c'est ce qui s'est passé dans cette vieillesse de David. Quelque chose de cruel, parce que ça aurait été peut-être un étranger ou un de ses capitaines, ou un de ses soldats, ou peut-être même là quelqu'un en dehors de sa famille, peut-être que David, et il en a eu aussi des ennemis de ce côté-là, mais que ce soit son propre fils. Je pense que plus d'une fois, David a su se dire « Mais dans quel monde je vis ?» Comme aujourd'hui, peut-être, vous vous posez la question, et comme nous, peut-être plus jeunes, nous nous posons la question, lorsque nous voyons le renversement des valeurs, lorsque nous voyons que les principes sont foulés aux pieds et que nous regardons autour de nous, sans nostalgie peut-être du temps passé, de nos 20 ans ou de notre jeunesse, mais quand même de dire « Mais dans quel temps ? Quelle époque ?» Et David pouvait se dire « Mais quelle époque ? J'ai élevé des enfants, j'ai élevé des fils. Ils n'étaient pas les moins parmi la nation parce que c'était des princes. Et voilà le résultat. Voilà la situation. Mon fils que j'aime se révolte contre moi. » Événement tragique, s'il en est. Puisque la maison royale, à un moment donné, toute la maison royale est contrainte de se mettre sur les routes, c'est-à-dire de partir, de quitter Jérusalem, de quitter le palais pour chercher refuge hors du pays d'Israël. Ça, c'est un paradoxe. Parce qu'il n'y avait pas de sécurité pour David, il n'y avait pas de sécurité pour sa famille, il n'y avait pas de sécurité pour ses proches et serviteurs. Il fallait quitter le pays. Renversement de choses. Et peut-être que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous qui sommes peut-être un peu plus jeunes, nous n'avons peut-être pas fini d'en voir. Des renversements de choses. Et déjà, ces dernières décennies nous ont appris certainement beaucoup. Alors, nous pouvons nous prendre et peut-être penser que David serait-il l'auteur présumé de ce que nous rapporte le psaume 71, je vous lis le texte, parce que vous le connaissez forcément, et vous l'avez probablement lu. Cette prière qui monte du cœur de David, et je pense que ça pourrait être finalement une prière que David ait fait monter dans ces circonstances quand il dit ceci, « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. » Et il poursuit, « Car mes ennemis parlent de moi, et ceux qui me guettent ou qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant Dieu l'abandonne. Poursuivez, saisissez-le, et il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu, viens en hâte à mon secours. » Et je retiens dans ces paroles certainement une prière de David quand il dit ceci, « Ne me rejette pas au temps de la détresse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas, Seigneur. » Et je pense que plus d'une fois, vous avez certainement fait monter cette prière devant Dieu. « Ne m'abandonne pas lorsque mes forces m'abandonnent. » À l'instar de l'apôtre Paul, combien comme David aussi pourrait s'exprimer de cette manière, « Seigneur, reste à mes côtés, parce que je n'ai plus la vigueur de mes 20 ans. Je n'ai plus l'énergie pour faire face à telle ou telle situation. » Et il y a des hommes qui, arrivés à un certain âge, ont encore de grandes capacités. Mais il y a parfois, et fomentées par l'adversaire, eh bien des situations qui nous dépassent et qui nous mettent par terre, qui nous, eh bien là, nous subjuguent complètement et totalement. Alors, quand David pouvait dire ces paroles, je crois que nous touchons véritablement l'homme de Dieu, certes, l'homme de foi, le grand homme qui avait servi Dieu toute sa vie. Mais nous touchons aussi l'homme tel qu'il est, dans sa sensibilité de l'âge. Un âge ô combien respectable, où l'on ne devrait jamais avoir à dire ces paroles qui viennent d'un auteur du Nouveau Testament, quand il écrit ceci, « Je vous écris comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. » Ce sont des paroles fortes. Et je crois que, je me souviens plus si c'est Paul ou Jean, mais je crois que c'est Paul, quand il écrit ceci, s'adressant à une église, parce que vous savez qu'il était père spirituel dans ces églises qu'il avait fondées, et il y avait des gens qui l'accueillaient favorablement, des gens qui aimaient certainement très très fort Paul, mais il y a des gens qui ne l'aimaient pas, ou des gens qui l'avaient aimé mais qui ne l'aimaient plus. Et nous voyons que c'est un peu l'histoire d'Absalom et de David, parce qu'un fils doit aimer son père, comme un père aimera toujours son fils. Ça, c'est la parabole du fils prodigue, de toute manière. Mais on s'aperçoit qu'il écrit ceci, cet auteur du Nouveau Testament. Alors, il dit, « Mais je vous écris comme je l'ai fait pour ne pas éprouver de la tristesse de la part de ceux qui devaient normalement me donner de la joie. » Vous en savez certainement plus que moi, vous qui écoutez cette parole, parce que vous avez l'expérience de la vie, de l'existence. Et certainement que plus d'une fois, vous avez dû pleurer pour vos enfants. Vous avez dû verser les larmes, parce qu'ils prenaient des directions qui étaient très préoccupantes, inquiétantes. Parce que c'est ça le cœur d'un père et d'une mère. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Et je dis que c'était aussi comme cela dans le cœur de David. Et je dirais que c'est même comme cela dans le cœur de Dieu, pour nous. Parfois, nous sommes aussi des enfants indociles. Nous sommes des enfants réfractaires. C'est bien pour cela qu'il est venu nous sauver. Il nous a fait grâce, et heureusement qu'il nous a fait grâce, pour ne pas éprouver de la tristesse de la part de ceux qui normalement devaient nous donner de la joie. Et David est un homme qui pleure. Non seulement il pleure plus dans son palais, mais il pleure sur les routes. Il pleure parce qu'il a été, eh bien là, mis en dehors de sa maison et par son propre fils. Probablement que l'âge qui passe nous fragilise, à travers toutes les luttes de l'existence, à travers les soucis, à travers les inquiétudes. Quand nos forces vives s'amenuisent, et ça on le sent, vous avez certainement une grande connaissance des douleurs, quelquefois même physiques. Moi on m'a prévenu, on m'a dit quand tu vas avoir passé 50 ans, tu vas voir, ça commence à coincer un peu de tous les côtés. Et de fait, c'était pas une prophétie, mais c'était une réalité qui s'est réalisée, parce que c'est vrai que passer le cap, hein, je suis encore un jeune homme, hein, vous le savez, mais quelquefois, j'ai des petites douleurs comme ça, alors c'est... il faut que je fasse du sport. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, eh bien, les forces s'amenuisent. Là où l'on a tant besoin, finalement, où l'on a immensément besoin, eh bien, du Seigneur, de sa grâce, plus que jamais de Dieu. On a peut-être rêvé du quatrième quart de la vie. Alors, vous savez ce que c'est que le quatrième quart ? C'est ce qui nous réunit aujourd'hui. Alors, je ne sais pas comment on doit décompter la vie, hein, par tranche de 25 ans ou par tranche de 20 ans, mais enfin, déjà, quand on arrive à 80 ans, c'est déjà pas mal. Hein ? Le quatrième quart de la vie. Alors, on a peut-être rêvé à ce moment-là que, eh bien, ce sera un temps de repos. Formidable. J'arrive à la retraite maintenant, c'est formidable. Et puis, on a peut-être rêvé aussi d'une retraite ensoleillée en disant, voilà, j'ai travaillé toute ma vie maintenant, eh bien, par la grâce du Seigneur, parce que nous raisonnons comme ça en tant que chrétiens, maintenant je vais pouvoir, eh bien, vivre autrement. On a rêvé peut-être d'une fin de vie tout en douceur, et voilà que l'histoire, que notre histoire nous rattrape. Parce qu'on s'aperçoit que cette parole de Jésus à Pierre est aussi une réalité pour notre temps, notre monde. Quand Jésus dira à Pierre dans l'évangile de Jean au chapitre 21, « Quand tu étais jeune, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, alors à ce moment-là, ce sera peut-être une autre histoire, je paraphrase, mais un autre te mènera là où tu ne veux pas aller. » Et c'est vrai que Jésus avait raison. Surtout, dire ça à un homme comme Pierre, qui était rempli de force, rempli d'impétuosité, rempli certainement de vigueur, d'entendre cela de la bouche de son maître, eh bien, un jour, tu verras, comme les autres, eh bien, on te mènera où tu ne veux pas forcément aller. Alors, quand on est âgé, il y a une vie derrière soi. On l'a parcourue, tant bien que mal, pour certains sans le Seigneur pendant un certain temps, et la grâce est venue nous saisir, et après nous avons marché avec le Seigneur, mais en tous les cas, il y a toujours une vie derrière soi. Je dirais même qu'il y a des vies derrière nous. Parce que nous avons formé une famille pour la plupart d'entre nous. Et une famille, c'est beaucoup de joie, mais c'est aussi parfois beaucoup de peine. C'est une famille avec des enfants, et peut-être certains pourraient dire, mais moi je suis rendu à la troisième génération. Il y en a parmi nous, hein, certainement. Vous avez des petits-enfants ? Des arrière-petits-enfants ? Pas des arrière-arrière-arrière-petits-enfants, non, pas encore. Mais toujours est-il que c'est ça, la vie. Alors on se réjouit lorsqu'il y a une naissance dans une famille et on voit un homme ou une femme qui arrive dans ce monde. Quelquefois, nous pensons aussi avec une certaine inquiétude quel sera le monde que l'on va leur laisser, dans lequel ils vont vivre. Mais toujours est-il que c'est toujours un moment de joie. Alors nous avons des vies derrière nous. On est un peu comme, en effet, Jacob qui part à 70, puis quelques années, quelques décennies, il se retrouve à 2 millions de personnes. Vous savez quand ils sont descendus en Égypte, c'est ça, hein ? Alors c'est vrai que quand là on prend époux ou épouse, on part à deux et puis on s'aperçoit qu'au fil du temps, eh bien, ça se multiplie. Et je dis que c'est une grâce de Dieu, c'est vrai. Mais toujours est-il que tout cela, eh bien, avec le temps, ça nous amène certainement tout un cortège de joie, mais aussi de soucis. Alors, même quand on est arrivé au grand âge, même lorsqu'il s'agit plus de nos enfants directs, lorsqu'il s'agit de nos petits-enfants, lorsqu'il s'agit de nos arrière-petits-enfants, eh bien, il y a des situations parfois qui sont difficiles. Il y a le mariage aussi de ceux auxquels nous avons donné la vie. Vont-ils bien choisir ? Ont-ils bien choisi lorsque nous les voyons pleurer ? Lorsque nous les voyons souffrir ? Eh bien, nous ne pouvons pas nous désolidariser. Il y a parfois des expatriements de nos enfants. Certains partent au bout du monde parce qu'ils ont des affaires au bout du monde. Puis nous allons rester là. Nous ne les voyons plus, nos enfants, et ça nous fait du mal. Et puis, il y a des séparations volontaires ou involontaires dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, il faut tenir compte, il faut faire avec les divorces, avec les séparations. Ça, c'est aussi des sujets de pleurs pour nous qui sommes parents. Il y a des choix heureux qui nous réjouissent profondément, et puis il y a des choix malheureux. Voilà la vie. Je ne crois pas que je me trompe beaucoup, même si je n'ai pas votre expérience. Voilà la famille. Il y a parfois des désappointements, et parfois même de l'amertume. Moi, j'en tiens cette histoire d'Isaac et de Rebecca dans le livre. Tout simplement, je vous cite le passage, mais il nous est dit à un moment donné, Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith et Basmat. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Alors, mes frères et mes sœurs, quelquefois, nous sommes confrontés avec les choix de nos enfants. Et ce n'est pas nous qui choisissons. Et puis, nous devons faire avec. Des enfants qui ont été élevés dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne, et qui vont se marier avec, peut-être, des étrangers. Enfin, quand je dis étrangers, étrangers à la foi. Puis, ça ne nous fait pas forcément plaisir. Et puis, ben, faut faire avec, parce que c'est leur choix. Toutes sortes de choses dans ce sens. David, dans ces circonstances, était à Manaïm. Et c'est important parce que Manaïm, ça veut dire les deux camps, les deux armées. Et il y a un sens à donner parce que David, à ce moment-là, se trouvait dans un temps terrible de partage. Son cœur était partagé. Ses affections étaient partagées. Son royaume était partagé. C'était un temps pour David, dans son grand âge et fuyant, fugitif, un temps d'hésitation, un temps de doute et un temps de perplexité. David, certainement sur ce chemin, baissant la tête, accablé par la catastrophe qui lui arrivait, devait se dire « Mais qu'est-ce que j'ai pu faire ? Qu'est-ce que j'ai pu faire ?» C'est vrai qu'il avait fait des choses, et pas forcément des meilleures. Mais je crois que David était un homme qui était un homme de foi et qui savait s'élever par-delà, finalement, dans sa foi, pour croire que Dieu était un Dieu de miséricorde et un Dieu de grâce, et qui pouvait encore une fois, eh bien, le délivrer et le sauver. Parce que nous faisons tous des erreurs. Et nos erreurs, c'est vrai, nous suivent. Mais nos erreurs, Dieu n'est pas là pour nous les rappeler, pour nous accabler et nous anéantir. Il est là pour que nous apprenions encore à nous rapprocher de lui. Alors, nous voyons David, dans ces circonstances, dans cet lieu qui s'appelle Manaïm, dans le doute et la perplexité, dont la prière pourrait être celle-ci, « Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi, mon Dieu. Viens en hâte à mon secours. » Mais le Dieu que David prie, c'est le Dieu de la consolation et le Dieu de l'espérance. Vous savez que nous avons quelque chose d'extraordinaire. Nous possédons quelque chose d'extraordinaire, nous, enfants de Dieu. C'est que nous avons la foi. C'est un trésor. Imaginons-nous ce que cela représente, un trésor extraordinaire. Et c'est une grâce qui nous a été faite. On trouve toujours dans nos infortunes de vrais amis. Et c'est ce que nous dit ce texte. Je dirais même des amis providentiels, peut-être des amis même qu'on n'a pas vus depuis bien longtemps, mais que Dieu va nous envoyer précisément à ce moment-là, au moment où nos forces nous abandonnent, au moment où il faut faire face à des situations qui nous dépassent, et Dieu nous envoie de vrais amis providentiels qui compatissent et même abandonnés, eh bien il en reste toujours quelques-uns auprès de nous. Comme nous le lisons dans notre texte 2 Samuel, verset chapitre 17 et verset 27, où il est dit ceci. « Lorsque David fut arrivé à Manaïm, dont nous parlons dans notre première lecture, Chobi, fils de Nashnak, de Rabba, des fils d'Amon, Makir, fils d'Amiel, de Lodebar, et Barzilaï, tiens, le Galadite de Rogolim, apportèrent des lits, des bassins, des vases de terre, du froment, de l'orge, de la farine, des grains rôtis, des fèves, des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, des brebis, des fromages de vache. Ils apportèrent ces choses à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'ils mangent, car ils disaient ce peuple a dû souffrir de faim, de la fatigue, de la soif dans le désert. » Je trouve que c'est un passage très émouvant. Imaginez-vous David qui depuis certainement des heures et des heures et des jours est en train de courir sur les routes, lui le roi, parce que son fils l'a trahi. Et là, eh bien, tout le peuple qui lui est resté fidèle, c'est un peu l'Exode, hein. Vous avez peut-être connu l'Exode, hein. Peut-être certains d'entre vous, hein, ou tous ces pauvres gens, là, fuyant les Allemands qui envahissaient le nord de la France, eh bien, étaient sur les routes. Eh bien, c'était un peu la même chose qui se passait dans cette situation. Et nous voyons que Il y a trois personnages qui vont apparaître pour venir donner compassion à David et lui dire: David, tu sais, nous partageons ton malheur et nous sommes avec toi. Mais comme David n'avait plus rien à manger, il n'avait rien pris parce qu'il avait fui, alors trois hommes se sont approchés. Il y a d'abord Shobi. Shobi, c'est un ammonite, c'est un étranger, comme quoi Dieu est capable de nous envoyer auprès de nous des hommes qui n'ont rien à voir peut-être avec les affaires de Dieu, mais qui néanmoins, eh bien, ont un cœur qui est inspiré par le Seigneur. Et Shobi, ça veut dire l'Éternel est glorieux, malgré tout qu'il soit ammonite. Il y a Makir aussi. Makir, ça veut dire vendeur, celui qui fait du commerce. Mais là, dans la circonstance, ce n'est pas quelqu'un qui vend, c'est quelqu'un qui donne. Formidable, hein? Il donne, il est venu pour donner. Et puis il y a Barzilaï. Et ça veut dire tout simplement, Barzilaï, ça veut dire fer de Dieu. Le fer, le matériau. Fer de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui ne plie pas. Quelqu'un qui est solide, fer de Dieu. Alors il va y avoir toute cette organisation qui va se mettre en route quand on apprend que David est là dans l'infortune. Elle se met en place pour les réfugiés. Et David dira, et l'écrira peut-être plus tard, dans le psaume 37, cette parole que vous connaissez certainement très bien, il dira: « J'étais jeune, mais j'ai vieilli, et je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. » Parce qu'on était venu lui apporter du pain. Parce qu'on était venu lui apporter dans son infortune ce qu'il avait besoin pour continuer à vivre. Il avait déjà une immense détresse morale, mais il avait, et son armée et ses compagnons avaient faim aussi. Alors on est venu lui apporter, et il pourra l'écrire plus tard. Mais c'est vrai que j'ai été jeune. Mais il peut nous assurer aussi pour chacun d'entre nous, nous qui sommes des enfants de Dieu, et qui, eh bien là, avançons en âge, eh bien nous dire, eh bien c'est vrai que j'ai été jeune. Mais moi je peux vous dire, et je le dis à la face du monde, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. Est-ce que c'est notre cas? Certainement que le Seigneur a toujours pourvu, même si quelquefois c'était juste, très, 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 très juste. Parce que le juste est pris en charge par le Seigneur. Ce n'était certainement pas un mouvement altruiste, mais comme le dit le verset 29 dans notre texte, que je retrouve ce passage, dans ce texte de notre récit, verset 29, voilà, j'ai dû me tromper de référence, mais toujours est-il que ça n'a pas d'importance. Il y a là de cœur et de la compassion, j'ai dû certainement me tromper, mais c'est pas grave, quand il nous est simplement dit, ben voilà, je reviens sur le texte précédent, voilà, ils sont venus apporter toutes sortes d'aliments afin qu'ils mangent, car ils disaient ce peuple a dû souffrir de la faim, de la fatigue, de la soif. Je crois qu'il y a du cœur et de la compassion chez ces trois hommes qui viennent au devant de David pour le secourir. Et que dire finalement de cette fatigue, de ces fatigues, de ces faims et de cette soif, certes qui étreignaient les réfugiés sur le plan physique et sur le plan moral, dans un désert. Et là nous pouvons peut-être parler du désert de l'âge aussi. Parce que le désert géographique existe, mais il y a toutes sortes de déserts dans la vie. Hein. Désert affectif, quand on se retrouve tout seul. Désert de l'âge avancé. Désert de la solitude. Désert de la violence. Des événements. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi ce trouble? Pourquoi ces choses dans ce monde et dans cette vie? On s'en prend quelquefois à penser, quand on regarde un peu le contexte de notre monde, on se dit pourquoi se faire du mal alors que la vie est si courte et qu'on pourrait se faire du bien. Quand on voit les familles qui se déchirent, quand on voit toutes ces choses qui se passent, ces nations qui s'entretuent, alors que nous ne sommes que des fourmis sur la terre et que nous allons passer, que nous allons passer très vite, mais pourquoi faire le mal? Pourquoi se détruire les uns des autres alors que le temps est si précieux, les jours s'écoulent si vite? Ah oui, parce que c'est comme ça, et puis c'est terrible, mais c'est ainsi. Alors, je vais aller très vite dans l'histoire de David et de Barzilaï. Nous allons tourner quelques jours, les pages de quelques jours, et plus tard, quelques temps plus tard, les choses se sont apaisées. Parce que vous savez, dans la vie, les choses s'apaisent toujours. C'est pas vrai? Ouais. Il y a des temps où ça flambe, des temps où tout s'enflamme, des temps où il y a de la passion, où les sentiments sont tellement poussés à l'extrême que nous sommes prêts à faire des choses qu'il ne faudrait pas faire. Hein, on est tellement emporté, tellement révolté devant le mal et devant ce qui se passe, et le mal que l'on nous fait, l'injustice. Ah, on serait prêt à prendre une masse et puis casser les murs, casser les Jéricho, casser tout, hein, même casser la tête aux gens. Hein. Mais dans les crises de la vie, quelles qu'elles soient, à un moment donné, ça se tasse. Ça se tasse toujours. Les conflits des hommes se tassent quand ils se sont bien épuisés à s'étriper. Quand ils se sont bien là, et bien là, fatigués à mener la guerre, à un moment donné, il y a la paix qui revient. Parce que c'est pas possible. C'est comme ça. Et moi, je suis convaincu que, de toute façon, le mal ne prendra jamais le pas sur le bien. Même dans ces temps où il y a de la fureur sur la terre, que les nations se font la guerre, comme ces deux dernières guerres mondiales, on voit les soldats épuisés, les gouvernements épuisés, les princes et les rois épuisés. Et à un moment donné, il faut dire non. Allez, ça y est, on a fait tomber, on a fait couler trop de sang, maintenant il faut faire la paix. Alors paix, si elle est faite sans Dieu, ça augure une autre guerre. Mais enfin, toujours est-il que... Alors, les choses s'apaisent pour David. Et Absalom et sa révolte ont été confondues. Parce qu'il y a eu un retournement de situation. En quelque sorte, ce fils méchant, ce fils rebelle, eh bien, va être confondu. Vous connaissez comment il est mort. Hein? Il s'est fait prendre par les cheveux. C'est pas ça? Ouais. Il courait sur son âne. Puis il avait pas vu qu'il y avait un arbre devant lui qui était fourchu. Paf! C'est terrible. Et vous savez que c'était quelque chose de terrible pour David quand il a su que son fils était mort. Et pourtant, il lui en a fait voir des couleurs. De toutes les couleurs. Alors, à ce moment-là, eh bien, Salomon va perdre la partie parce que c'est Dieu qui est derrière. Et devant le mal qui se déchaîne, c'est toujours Dieu qui réglera les problèmes. Mais quelle blessure pour David. Il pleurera la mort de son fils. Et dans le psaume 56, nous avons ce texte qui nous dit ces paroles. Lorsque nous tournons les pages de notre Bible, nous en apprenons des choses. 56, verset 9. Quand il dira ceci, il a pu l'écrire, notre ami David, parce que c'est un hymne de David. Tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Mes ennemis reculent au jour que je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel et en sa parole. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Alors David revient à Jérusalem. Son fils est mort. La révolte a été étouffée. Et le roi revient à Jérusalem. Et à ce moment-là, quand il revient dans la capitale, il est plébiscité. Vous savez ce que ça veut dire, naturellement, plébiscité. Il est accueilli par tout Juda et tout Israël. On est content de revoir le roi. Parce qu'on a pensé quelque temps avant que c'en était fini pour lui. De sa vie et de son royaume. Alors David revient. Mais il revient en sachant ces choses, qu'il est encore le roi selon la volonté de Dieu. Pour nous dire que tant que nous n'avons pas fini notre mission, eh bien personne ne touchera un cheveu de notre tête. Ouais. Chacun d'entre nous. Et vous avez un rôle important à jouer dans l'Église, frères et sœurs. On dit les personnes âgées ne peuvent plus rien faire. Non, certainement pas. Ça sera peut-être pas le même rôle que lorsque vous aviez 30, 40 ans ou plus jeune. Mais ce sera un rôle qui est un grand rôle aux yeux de Dieu. Tant de prier pour l'Église, de prier pour la jeunesse de l'Église, de prier pour la suite de l'Église, de prier pour aussi ceux qui servent dans l'Église, et en particulier les frères anciens et les serviteurs de Dieu. Moi, je compte beaucoup sur vos prières. Oui, je le dis, nous prions pour vous, mais je vous demanderai de prier pour nous parce que nous en avons besoin. La tâche n'est pas facile tous les jours, hein. Vous devez vous en douter. Alors, il est encore le roi selon la volonté de Dieu, et tant que vous êtes en vie, dans la fidélité du Seigneur, vous avez encore un rôle à jouer. Alors il prend sans tarder des mesures de grâce, et je dis bien des mesures de grâce, il ne se venge pas, David, parce que quand on est chrétien, on ne se venge pas. Et après la tourmente, et je crois que c'était certainement la sagesse de son âge, ça aurait été un plus jeune, il aurait dit « vous me coupez la tête à tous ceux qui ont marché avec mon fils », mais là non, il prend des mesures de grâce. À l'égard de Shimei, enfin, je vous donnerai de relire le texte si vous voulez plus tard, mais Shimei qui l'avait insulté, qui lui avait lancé des pierres en disant « Tu es un roi maudit !» Eh bien, il va lui dire « Eh bien, maintenant, je te pardonne. » L'autre qui vient en baissant les phares, en disant « Surtout, hein, j'ai perdu, mais tu ne me fais pas de mal. » Alors que lui, il n'aurait pas raté David s'il avait eu l'occasion. Il va prendre des mesures de grâce à l'égard de Méphibosheth, le fils ou le petit-fils de son ennemi héréditaire, c'est-à-dire le roi Saül. Il va prendre des mesures, et c'est ce qui nous intéresse maintenant très rapidement, des mesures à l'égard de Barzilaï, son ami. Barzilaï qui vient et qui s'approche de lui. Parce que David est un homme d'honneur et c'est un homme désintéressé. David avait cette devise comme celle d'Abraham. Vous connaissez la devise d'Abraham ? En trois mots, quand il revient de la guerre des rois de Sodome et Gomorre, et qu'il y a là un butin de guerre fabuleux, qu'est-ce que dira Abraham ? Il dira « Rien pour moi ». Ça, c'est la devise du chrétien. « Rien pour moi, tout pour mon Dieu, tout pour mon Seigneur ». Alors, eh bien, David dira « Rien pour moi », en quelque sorte, c'est de la noblesse. Parce que quand on est roi, il faut être noble. Et quelquefois, les rois ne sont pas toujours nobles. Ou les hommes qui sont investis de pouvoir, pas toujours nobles. Et nous voyons que de tout ce passage qui suit est un couronnement. Non pas le couronnement de David, parce qu'il est remis dans sa place, mais le couronnement de tous ceux qui sont auprès de lui, qui ont été fidèles. Et au chapitre 19, et je le relis, parce qu'il nous est simplement rappelé ceci, Barzilaï descendit à Rogolim. Il passa le Jourdain avec le roi pour l'accompagner. Je passe. Barzilaï était très vieux, âgé de 80 ans. J'espère que ça vous effraie pas quand on dit très vieux, âgé de 80 ans. Hein ? Mais c'est ce qui est dit dans notre Bible. Il avait entretenu le roi pendant son séjour à Manaïn, pendant la révolte, et c'était un homme fort riche. C'est pas parce qu'il était riche qu'il pouvait fermer son cœur. Mais il était riche, mais il l'ouvrait. Alors le roi lui dit, Barzilaï, viens avec moi, je te nourrirai chez moi à Jérusalem. Mais Barzilaï répondit, mais ô roi, mais combien d'années ai-je encore à vivre? Je suis âgé de 80 ans, puis-je connaître encore ce qui est bon, ce qui est mauvais, et puis-je savourer encore, eh bien là, tout ce que je mange et ce que je bois, est-ce que je peux entendre les réjouissances du palais où il y a des chanteurs et des chanteuses? Enfin, je suis en train de paraphraser, vous avez compris. Mais est-ce que je serai pas encore à la charge de mon serviteur parce que je suis vieux et je vais être une tristesse dans le palais, c'est ce que dit Barzilaï. Pourquoi d'ailleurs le roi marquerait-il ce bienfait que ton serviteur s'en retourne et que je meure dans ma ville? Mais Barzilaï étant trop vieux, il dit voilà, j'ai un serviteur qui s'appelle Kiam. Alors le bien que tu veux me faire au roi David, eh bien tu peux pas me le faire à moi parce que je suis trop vieux et puis j'ai plus tellement de goût à toutes ces choses de la cour. Mais tu vas le faire à quelqu'un que j'aime bien, qui est mon serviteur et qui s'appelle Kiam. Alors lui, va aller avec toi et tu lui feras tout le bien que tu voudras. C'est comme si tu le faisais à moi. C'est beau. C'est formidable. Et vous savez, je crois que c'est l'héritage que vous avez, que nous avons, arrivé à un certain âge, à transmettre. Si nous ne pouvons plus suivre le rythme et les choses de cette vie, en tous les cas, faisons du bien autour de nous et permettons à d'autres de recevoir les bienfaits et la grâce de Dieu. Parce que l'histoire de David et l'image de David, c'est un peu l'histoire et l'image de la grâce de Dieu qui est donnée sur les hommes. Couronnement d'un roi qui est restauré, mais c'est aussi un couronnement pour un fidèle qui est honoré royalement, puisque le roi lui dit, puisque tu m'as fait du bien dans mes temps d'infortune, moi je voudrais te faire du bien maintenant que je suis redevenu roi, je voudrais te faire du bien dans mon palais. Ce que naturellement Barzilaï n'accepte pas parce qu'il arrive à un âge où tout ça, ça ne lui dit plus rien. N'est-ce pas pour ces gens-là que la parole de Dieu déclare au psaume 21 « Tu as mis sur sa tête une couronne d'or ». Et vous savez que Dieu pose des couronnes d'or et d'argent sur vos têtes. Je vois qu'il y a des couronnements d'or, d'argent en tous les cas. Hein ? Et Dieu, justement, veut couronner ceux qui ont été ses serviteurs, en l'occurrence vous, les uns et les autres. Parce qu'il y a un proverbe qui dit ceci, « Tu as mis sur sa tête une couronne d'or, car les cheveux blancs sont une couronne d'honneur. » Et il est beau de trouver des visages de frères et de sœurs qui arrivent à la grande vieillesse et qui sont restés pendant toutes ces années fidèles au Seigneur et qui sont couronnés. Parce que les cheveux blancs, c'est pas seulement le signe de la sagesse, mais c'est aussi le signe, finalement, eh bien, de cet honneur que nous avons toujours marqué et réservé au Seigneur, qui trouve écho jusqu'à dans ce que nous dit l'apôtre Jacques lorsqu'il écrit ceci: après l'épreuve, il recevra la couronne de vie. C'est Jacques qui nous dit cela. Après l'épreuve de la vie, après l'épreuve de tous ces passages difficiles que vous avez connus, eh bien, sachez que Dieu vous fait la promesse, qu'il nous fait la promesse, eh bien, que nous recevrons cette couronne de la vie. Et dans le livre d'Apocalypse, nous entendons aussi cette autre parole quand il nous dit « Sois fidèle, et je te donnerai la couronne de vie. » Et nous sommes encore exhortés à être fidèles. Vous l'avez été, mais Dieu vous dit « Mais encore un peu, restez et demeurez, parce que je vous promets une couronne qui sera la couronne de la vie éternelle. » Je termine, frères et sœurs, à l'adresse de tous ceux qui aiment la vérité. Et vous êtes probablement des hommes et des femmes qui aimez la vérité. Ouais. Parce que vous l'avez démontré dans certainement votre attachement au Seigneur, malgré parfois nos infidélités, c'est vrai. Mais néanmoins, ce qui est important, c'est de croire toujours que même lorsque nous faisons des erreurs, la grâce de Dieu est toujours là pour nous faire repartir. Alors, à l'adresse de tous ceux qui aiment la vérité, de ceux qui n'abandonnent jamais, au grand jamais, d'aimer. Parce que le secret de tout cela, c'est aimer, aimer encore. Regardez David qui continue à aimer même malgré le mal qu'on lui a fait. De ne jamais cesser d'aimer. Et c'est ce que nous dit, et je terminerai sur ce passage parce que je crois que c'est un des plus beaux passages de la Bible. Est-ce que vous connaissez la petite épître de Jacques, la deuxième épître de Jean. Écoutez, elle est pleine d'amour. Elle est pleine de fidélité. Elle est pleine de ce désir d'aimer et d'aimer toujours et jusqu'au bout. Il nous est simplement dit, je lis cette partie, « L'ancien Kyria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. » Il ne s'agit pas d'aimer n'importe comment, mais d'aimer dans la vérité. Parce qu'il y a bien des gens qui aiment dans la fausseté, qui se donnent des illusions dans leurs sentiments. Mais il nous est parlé d'aimer dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en vous. Vous vous rendez compte, le mot vérité qui revient continuellement, amour et vérité, c'est lié. Et qui sera avec nous pour l'éternité, que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous tous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et dans l'amour. J'ai été fort réjoui, écrit finalement Jean, de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est beau, hein? Moi, quand je lis ça, ça me donne des frissons. Je donne mes impressions au passage. Mais c'est vrai, je trouve que c'est extraordinaire. Que nous nous aimions les uns les autres, car l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Et nous savons que ces commandements ne sont pas difficiles lorsque nous aimons, lorsque nous l'aimons et nous nous aimons les uns les autres. C'est là, frères et sœurs, où l'on juge la vraie valeur de la foi. Je peux dire j'ai la foi, mais ma foi ne sera vraiment valable, ne sera retenue dans le ciel auprès de Dieu que dans la mesure où à ma foi j'y ajouterai l'amour. Parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre chose. Et j'aime bien cette amitié entre David et Barzillaï. Je dirais cette amitié entre, eh bien là, ces deux hommes, comme David a eu aussi d'autres amis. Plus jeunes, connaissez, David et Jonathan. Mais là, dans sa vieillesse, c'était plus des jeunes gens, c'était plus des jeunes hommes. Mais ils avaient cette relation très très forte. Et nous devons apprendre à nous aimer les uns les autres, à aimer le Seigneur jusqu'à la fin, alors que Dieu nous bénisse et que Dieu nous donne sa grâce. Amen. Nous allons prier quelques instants, s'il vous plaît. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour ta bonté, ton amour et ta fidélité. Merci, Seigneur, parce que ta parole est une parole vivante, une parole que nous avons besoin d'entendre et de réentendre. une parole qui nous fait du bien, Seigneur. Parce que c'est vrai, Seigneur, s'il y a beaucoup de mal dans ce monde, il y a aussi de la part de Dieu beaucoup de bien qui descend dans nos âmes, dans nos cœurs. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous pouvons dire, c'est vrai, Seigneur, par l'expérience, et mes frères et mes sœurs peuvent le dire ce matin, j'ai été jeune et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné et mendier son pain. Merci, Seigneur, parce que je sais que je suis aimé dans le ciel. Merci, Seigneur, parce que je veux aimer mes frères et mes sœurs. Et nous croyons que dans les temps d'infortune, dans les temps de difficulté, les temps où David pouvait dire « Ne m'abandonne pas, Seigneur, au jour de ma vieillesse, au jour où mes années s'envolent », eh bien, Seigneur, je crois que tu restes et tu demeures pour celui qui te reste fidèle, qui aime la vérité. Eh bien, Seigneur, tu demeures auprès de lui et tu nous conduis vers notre destination éternelle. Alors, Seigneur, nous voulons te remercier ce matin parce que le plus grand et le plus beau de tous les trésors que tu nous aies jamais donnés, eh bien, Seigneur, c'est de te connaître et de marcher, Seigneur, avec toi. Merci pour l'histoire de David. Merci pour l'histoire de Barzilaï. Merci, Seigneur, pour ce que nous pouvons en tirer d'encouragement, de consolation peut-être pour certains, et ainsi placer nos cœurs devant toi. Louange et gloire à toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Merci, Seigneur.